Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Viviane Amy. Lorsque l'on reçoit un ou une invitée pour sa nuit rêvée, si cet invité, allez, cet invité est une écrivaine, par exemple, la tâche est assez simple. Si cette écrivaine est dans un studio avec nous, c'est que sa dernière œuvre parue nous a plu, évidemment. Et la conversation se fera autour des archives choisies, bien sûr, qui vont donner aux 7 heures du programme une coloration particulière que l'on souhaite varier. Mais elle se fera aussi, cette conversation, autour de l'œuvre toujours juste sortie de l'imprimerie. Alors dans le cas d'une éditrice, comment dire, la tâche est un peu plus complexe. On pourrait, par intégrité professionnelle, et on devrait avoir lu les 500 ou alors 250 ou 300 derniers ouvrages publiés par cette maison d'édition, par cette éditrice, afin de ne rien laisser au hasard. Alors tout le monde peut comprendre que ce serait un petit peu difficile de lire autant de ou de relire autant de textes. On risquerait de bâcler. Alors non. Bonsoir Viviane Amy.
Bonsoir Philippe Garbi.
Alors, si vous étiez à la tête, vous, d'une maison d'édition centenaire, ou pas tout à fait centenaire, mais en tout cas qui publie, mettons, une centaine d'ouvrages par an, ça existe. Ce sont de bonnes maisons d'édition, pourquoi
oui,
pas
Vous
ne seriez sans doute pas en état de nous raconter absolument tous les ouvrages publiés dans l'année. Mais vous, Viviane Amy, vous publiez seulement, et l'adverbe n'a rien de péjoratif, on s'en doute, une dizaine, une douzaine de titres par an. Alors, je suis bien certain que vous avez en tête toutes les œuvres que vous avez publiées depuis 1990.
Absolument. Oui, parce que je dirais dès le départ qu'en fait, avant d'être éditrice, avant d'être éditeur, je suis lectrice. J'ai un rapport à la lecture qui a été un rapport de magie. Il y avait peu de livres chez mes parents, chez mes frères et sœurs. C'est une de mes sœurs qui m'a initiée à la lecture et à la dimension artistique. Et c'est vrai que les premiers livres véritablement que j'ai découverts, c'était en bibliothèque. Et quand je suis rentrée dans une bibliothèque, je peux avoir 6-7 ans, est-ce que je sais, il y avait un parcours très initiatique pour y aller, en tout cas dans ma tête. Tout d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, tout ça, mais comment je vais faire le choix? Comment je vais savoir? Comment je vais comprendre? Et le livre, pour moi, c'est ça, c'est savoir, comprendre, donc vivre. Et vivre avec les autres, et essayer de vivre avec moi-même. Et au fil du temps, cette... Oui, bien entendu, je l'exprime maintenant, hein, quand j'avais 6, 7 ans, 10 ans. Il y a eu quelque chose qui s'est comme cristallisé. Cet émerveillement que j'ai à l'égard de tout ce que je ne connais pas, de tout ce qui est l'œuvre, le travail de l'homme, des hommes, me fascine toujours autant. Et c'est vrai que, bon, à 23 ans, après avoir fait différentes choses, avoir vécu, c'est un bien grand mot, tout d'un coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert une porte. Et j'ai eu l'impression, et c'est par le biais du théâtre que cette ouverture s'est faite, puisque tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà, le théâtre, c'est une scène. C'est une scène où, en fin de compte, il y a un texte appris. C'est la vie de chacun, au milieu des autres. Et à un certain moment, quand on donne les trois coups, eh bien, les comédiens qui sont sur scène, qui ont été dirigés auparavant, longtemps ou pas longtemps du tout, eh bien, sont totalement seuls et totalement présents aux autres. Et ils doivent non seulement dire leur texte, leur rôle, mais aussi improviser. Parce que le moment présent, l'instant donné, eh bien, personne ne le connaît. Et pour moi, avec cette vision que j'ai eue, tout d'un coup, je me suis dit, mais l'édition, les livres, je ne connais pas les livres, mais par contre, je vais avoir le temps de les connaître. Et c'est comme ça que cette vision, j'étais étudiante en droit à l'époque. Je me donnais des objectifs, n'est-ce pas? Il fallait faire du droit, il fallait. Et puis à 25 ans, bah, j'ai décidé que non, ce serait l'édition. Et donc voilà, c'est cette, euh, cette perception des choses que je ne connais pas et que je pourrais connaître est vraiment, vraiment, vraiment à l'origine de mon choix de... je veux dire existentiel.
Alors vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, Viviane Amir, sûrement de cet essai qu'avait publié Pierre Bayard aux éditions de Minuit il y a quelques années, qui s'appelait « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ». Alors je me demande, vous, comment, Viviane Amir, vous allez pouvoir ne pas parler, comment vous pourriez ne pas parler au cours de cette nuit rêvée, des livres que vous avez lus 15 fois, 20 fois, parce que vous les avez reçus par la poste, oui. Ou autrement, vous les avez corrigés, annotés, vous en avez parlé avec les auteurs avant que ça arrive chez les livres. Libraire, vous les avez lus peut-être 10, 15 fois. Oui, oui, si ça se trouve, vous les relisez même après publication. Donc, est-ce que vous pourriez ne pas parler du tout de livres cette nuit ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas et c'est justement ce qui m'intéresse. Le défi de se lancer comme ça dans quelque chose que l'on ne maîtrise pas totalement, mais grâce à ce que l'on a vécu, ce qui est derrière soi, s'accrocher à quelques correspondances. C'est vrai que... quand j'ai découvert Baudelaire et les correspondances, j'ai été là aussi très très impressionnée tout d'un coup, cette forêt de symboles dont il parlait. Les symboles sont mes béquilles, mes... Et donc les livres que j'ai publiés sont une sorte de prolongement de ce que j'ai lu avant et de projection de ce que je lirai plus tard et donc de ce que je vivrai avec la connaissance des personnages que j'ai pu rencontrer, et non seulement des personnages, mais des situations. Je dirais, je me suis rendu compte au fil des années que j'avais une mémoire assez, assez curieuse, qui était beaucoup plus une mémoire des sensations, de certaines situations très statiques, où à ce moment-là, j'avais entendu, compris, senti une émotion, un sentiment, et non pas dans le rapport, c'est pas tant le rapport affectif que manifestait ce souvenir-là, que tout d'un coup, une sorte, je dis un grand mot, peut-être un gros mot, une illumination, une sorte, même révélation, tout d'un coup, c'était une petite lumière qui s'allumait et qui s'ajoutait à celle que je... comme tout homme, je porte sur le front pour essayer d'avancer. Alors, je ne sais pas si ce que je vous raconte vous semble peut-être totalement ésotérique, mais il y a quelque chose que j'essaye de protéger. Vraiment, j'ai un besoin fort d'émerveillement. D'avoir le sentiment d'être devant quelque chose d'inconnu que je vais pouvoir embrasser.
Alors, je crois que dans votre publication, les publications depuis donc 1990, 250 titres à peu près. Si ça se trouve, en les lisant intégralement, on a le portrait, la biographie de Viviane Amir. Enfin, mais je crois aussi que vous avez dû vous inventer des vies en lisant les romans que vous publiez.
Oui. Mais vous savez, comment on
invente tout le temps, même sans publier d'ailleurs.
C'est assez... Que vous m'invitiez, c'est assez... Je crois qu'une maison d'édition, parce que malgré tout, l'édition me fascine complètement. Enfin, j'ai des modèles, les éditions Gallimard, les éditions de Minuit, Pauvert, etc. C'est une durée. Et je me suis rendu compte, bon, ces dernières années, il y a eu quelques mésaventures dans la maison d'édition. J'ai dû faire des choix assez drastiques, tant en tant que personne qu'en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'éditeur. Enfin, tout ce qu'on peut rassembler...
Éditeur, éditrice ?
Éditeur, éditrice. Bon, alors là, j'ai dit éditeur parce que j'ai créé la maison d'édition qui porte mon nom. Donc, c'est plus global qu'éditrice, en tout cas dans le langage commun. Éditrice, c'est celle qui travaille. C'est celle qui travaille dans une maison d'édition et qui s'occupe stricto sensu de la fonction de découvrir, de lire.
Bah, moi, c'est aussi votre métier,
mais je suis aussi chef d'entreprise. Donc, si vous voulez, éditeur, c'est les deux. Et éditrice, c'est la fonction que je revendique. Après, l'entreprise, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'époque. Il faut... Je vous dis, j'ai fait du droit, donc...
Enfin, en tout cas, vous avez donné votre nom à cette maison d'édition. Ce que ne font pas tous les éditeurs ou toutes les éditrices.
Écoutez, ces dernières années, avant de créer la maison d'édition, j'ai travaillé 10 ans dans différentes maisons d'édition et j'ai été représentante en librairie aux éditions de La Différence et je tiens là à rendre un sacré hommage à cette maison d'édition, à ceux qui la faisaient parce qu'ils m'ont donné une vision de la liberté puisque cette maison d'édition, les éditions La Différence, quand j'ai commencé en 78 à y travailler, avait 45 titres et la poésie était au cœur de leur ouvrage. Et c'était extrêmement difficile à défendre, je n'avais jamais rencontré de libraire. Et là, cette sensation d'être lectrice, c'est considérablement, comment dirais-je, constitué. Et donc, bon, pour un certain nombre d'années, j'ai travaillé là. Ensuite, j'ai été attachée de presse dans des maisons totalement différentes. Et à chaque fois, par ce biais-là, quel que soit le lecteur, si vous voulez, c'est évident que j'ai eu à défendre des livres avec lesquels je n'avais aucune affinité, des choses très, 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 très différentes, aux éditions Belfond, aux éditions Lafond. Mais il y avait toujours, toujours, alors c'est peut-être très, très enfantin, très puéril, très idéaliste, très, très stupide, très cucu, je ne sais pas. Mais c'est vrai, cette perception de celui qui allait lire. Qui allait lire et qui allait mettre dans ce qu'il allait lire, peut-être pas obligatoirement sa nécessité, mais un intérêt et une façon de transformer. J'aime bien ce côté ruminant, si vous voulez, même pour le moindre livre, où en fin de compte, ce que l'on mange, il faut le digérer pour le transmettre. C'est vrai que là, en vous parlant, là, j'ai depuis quelques années un jardin. Un jardin, ça fait 7 ans maintenant, un chiffre symbolique. Et c'est extraordinaire de voir que on plante des choses, et puis pour certaines plantes, il faut 1 an, 2 ans, 3 mois. Et tout d'un coup, de voir la germination, si vous voulez. Donc, cette espèce de régurgitation régulière de ce qui, de ce grand processus, ce grand cycle, ces cycles-là, bon, que ce soit le symbole, je veux dire, Cybèle qui était au printemps sur la terre, et je crois que c'est Cybèle, je sais plus, Proserpine, je ne sais plus, je confonds peut-être que Cybèle et Proserpine, c'est vrai que ce besoin, je peux pas tenir un symbole entre les mains, mais c'est comme si, si mon imagination, mon cerveau, mes sensations, mes sentiments, avaient besoin de quelque chose de concret qui ne le serait pas. Je ne sais pas si. C'est très important de. Voilà, j'ai une relation aux mains, les mains.
Et à la récolte.
Et à la récolte.
Bon, oui. Alors, en tout cas, on va parler de la récolte de l'année dernière, 2017, donc dans quelques instants. Viviane Amy, parce qu'il y a eu beaucoup de titres qui ont marqué oui. Les lecteurs, les critiques. Mais on va aussi évoquer les archives que nous allons pouvoir entendre cette nuit et grâce à vous. Alors, on va commencer par un atelier de création radiophonique consacré à Andrei Tarkovski. C'est une émission qui avait été diffusée en 2006 pour la première fois sur France Culture. C'est à l'occasion d'une rétrospective de cinéma à Beaubourg. On écoutera aussi un tire-ta-langue pour une relecture de Léon Werth. Alors là, je comprends très bien et tout de suite. Émission qui date de 2006 également. Et puis une échappée belle consacrée à Alexandrie, en route sur les traces de la nouvelle bibliothèque. C'était un reportage de Marlène Bellilos, réalisé donc dans l'échappée belle de Marie-Hélène Fraissé, diffusé là en 1993. Alors, Tarkovski, Léon Werth, la bibliothèque d'Alexandrie, pour cette première partie de votre nuit rêvée, Viviane Amy, y a-t-il là encore, comme on pourrait le découvrir en lisant tous les 250 titres que vous avez publiés, y a-t-il des éléments biographiques qui expliquent Viviane Amy, éditrice, lectrice, petite fille, grande fille, je ne sais pas.
Tarkovski et Alexandrie, c'est évident que c'est une... Et au milieu, Léon Werth, c'est le début de la maison d'édition. Je parlais des correspondances tout à l'heure. C'est que je me suis orientée, par les cheminements de chacun, beaucoup vers les littératures dites de l'Est. Et j'ai découvert aux éditions de La Différence, donc en 78, un livre qui m'avait beaucoup plu, d'un auteur hongrois qui s'appelle Frigyes Karinthy. Le livre s'appelait « Capitularia ou le pays des femmes » et j'avais été fascinée par ce livre. J'étais allée en bibliothèque chercher un peu plus profondément qui était ce personnage, qui était cet écrivain. Et j'avais lu qu'il y avait un livre qui avait été publié qui s'appelait « Voyage autour de mon crâne ». Alors là, voilà, ce titre m'a complètement fascinée. Et puis, je suis allée lire, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai continué sur la littérature hongroise. Et cette littérature hongroise me ramène à Tarkovski parce que c'est vrai qu'à 16 ans, j'ai ma sœur qui m'a initiée à beaucoup de choses, qui est quelques années de plus âgée que moi, m'a emmenée voir à 16 ans. On habitait en banlieue, donc je prenais le train. À 16 ans, j'étais vraiment une petite fille, je peux vous assurer, j'étais vraiment pas... Elle m'a emmenée voir Andrei Roublioff. J'ai rien compris et j'ai en même temps tout compris. Ce qui m'a amenée à étudier le russe. J'ai trouvé que cette langue que je ne comprenais pas était d'une beauté à couper le souffle. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, ce que j'ai éprouvé, m'a laissé un souvenir mais absolument mais prodigieux. Et ces dernières années, et comme beaucoup, quand on a un souvenir comme ça très 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 fort d'un film, d'un livre, on a très peur ou de le revoir ou de le relire.
La déception,
voilà,
menace.
La peur de la déception, et en même temps la déception fait partie. Donc c'est vrai que j'ai une façon de me comporter, c'est que j'ai peur des choses. Et je me dis, oh, si tu as peur, il faut sauter dedans à pieds joints. Donc, il y a, pour des raisons diverses, je me suis, à la fin des années 90, parce que je n'étais pas allée au cinéma, je me suis offert un home cinéma, et j'ai vu des tas de films. Et j'ai, bien entendu, acheté le DVD d'André Roubleuf, et j'ai été éblouie par le film, bien entendu, mais également par ce qu'était la mémoire. C'est-à-dire, je ne sais pas, en tout cas, ma mémoire. J'avais, bien entendu, il y avait des tas de scènes que j'avais complètement oubliées, mais ce qui me semble être fondamental dans ce film était resté imprimé dans ma mémoire de manière absolument éblouissante. Et donc, c'est vrai que la littérature russe, tout d'un coup, toute cette orientation vers ces pays de l'Est, avec cette quête du sens confronté au réel qui est extrêmement lourd, avec ce besoin de transcendance, sans que ce soit obligatoirement une transcendance religieuse, si vous voulez. C'est vrai que la scène où le prêtre, Roubliov, qui a fait vœu de silence, se penche vers un petit garçon qui doit avoir, je ne sais pas, 14-15 ans, qui prétendait avoir le secret des fondeurs de cloches, et qui lui dit, mais... Et il apprend à ce moment-là que le gamin avait menti parce qu'il ne détenait pas ce secret, mais il a quand même fait une cloche avec un son exceptionnel. Il rompt son vœu de silence et il lui dit « on va partir ensemble sur les routes pour apporter la beauté aux hommes, la beauté du monde ». Et donc le gamin, avec sa cloche et cette musique, ce son extraordinaire, et Roubliov va recommencer à peindre. Ça m'avait, mais c'était une sorte d'extase. Et j'ai été extrêmement, comment dirais-je, émue que la mémoire, la mienne, mais la mémoire de l'homme, puisse avoir comme ça, puisse être aussi imprimée. Donc l'imprimer, les livres imprimés. Et d'une certaine façon, ça rejoint ce qui ces dernières années s'est passé, c'est que j'ai regardé, j'ai relu. Bon, alors il se trouve que j'ai une collection de poches, donc où je refais ressortir un certain nombre de textes. Et je me suis rendu compte qu'au fil de ces 27 ans, il y avait évidemment des correspondances très 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 fortes qui s'établissaient entre les auteurs, entre les textes, et que selon mes humeurs, les choix que je faisais était assez cohérent, assez...
Vous êtes seule, Viviane Ami, à décider dans cette maison d'édition. Oui. Viviane Ami, cela dit, c'est normal.
Oui, tout à fait. C'est ma partie, si j'ose dire. J'ai créé la maison d'édition seule parce que je voulais vraiment... encore une fois, la poésie est quelque chose qui m'importe beaucoup et j'ai quelques vers de certains poètes qui me restent dans la tête. Et c'est vrai que le réel est quelque chose... J'ai beaucoup de mal avec le réel, mais le réel, sans le réel, la magie n'existe pas. J'ai dit souvent, quand même toujours, que l'édition, c'est 1% de magie et 99% de pesanteur. Mais la magie, elle est complètement construite sur le réel. Je veux dire, la maison d'édition n'est pas un fantasme. C'est une création au sens physique du terme. J'ai publié des gens dont j'ai reçu les manuscrits par la poste, j'ai engagé des gens, j'ai été chef d'entreprise et Dieu sait que c'est une tâche effroyablement difficile parce que je n'ai aucun sens des hiérarchies. Je veux dire, la maison d'édition pour moi était ou est toujours, je ne sais pas, un lieu où les personnes qui ont un désir, une nécessité, enfin du moins que j'imagine qu'ils l'ont, peuvent exprimer quelque chose, peuvent provoquer quelque chose, exprimer, même provoquer quelque chose, et donc par cette provocation-là, il y a quelque chose qui s'exprime. Et donc effectivement, je veux dire, quand je parfois comme un leitmotiv, j'ai comme ça deux... alors le plus ancien, c'est quand même, ça remonte à très 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 loin, encore une fois, c'est Mandelstam que j'ai découvert quand j'avais une vingtaine d'années, encore une fois un russe, Et ces quatre vers sont absolument, je les répète comme un... C'est d'un corps, on m'a fait don. Que faire de ce bien, que faire de ce corps si unique et si mien? Alors le corps, c'est l'espace, on a un espace. Et dans cet espace, il y a un esprit, il y a le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit, donc l'espace et le temps. Et c'est vrai que pour moi, la maison d'édition, c'était, stupidement d'ailleurs, avoir le sentiment de maîtriser le temps. Et en me remémorant ces vers de Mandelstam, je me dis, mais je vais dire l'espace de mon corps ou l'espace d'un pays. Mandelstam a été quand même un poète qui a eu une vie des plus difficiles, comme beaucoup de poètes russes. Et c'est cette opposition, je veux dire, le XXe siècle, qui est un siècle où on a essayé de donner une certaine transcendance à l'homme sans obligatoirement avoir... derrière le sentiment du divin, c'est-à-dire, ce sont des choses, voilà, ma façon de m'inscrire, dans mon temps, c'est extrêmement important. Une maison d'édition s'inscrit totalement dans le temps. Et une des choses qui me fait assez plaisir, justement après ces 27 ans qui se sont écoulés, c'est de voir que je publie en même temps un auteur comme François Valéjo, ou un auteur comme Cécile Coulon, ou Céline Laperteau. Il se trouve que les auteurs, certains auteurs, sont de plus en plus jeunes. Et quand j'ai découvert qu'une jeune femme m'avait envoyé son manuscrit, et qu'elle avait l'âge de la maison d'édition, tout d'un coup, ça a été un petit caillou. Je me suis dit, bon, ce n'est plus une mie de pain, c'est un caillou. C'est vrai que les contes et légendes, tout ça, m'ont toujours maintenue droite. Et que, je veux dire, chaque livre de la maison d'édition, c'est un petit conte pour moi.
Alors, dans les archives, il y a aussi Vianami, donc on l'a dit, L'échappée belle, Alexandrie. Oui. Alexandrie, quel rapport avec vous avec...
Ah, ça, c'est majeur, puisque je suis née à Alexandrie. Et je suis née à Alexandrie...
Je le savais, à vrai dire.
Ah, d'accord. Mais c'est, là aussi, je me suis raconté toute une histoire. Je veux dire, j'ai deux sœurs et un frère. Ils sont nés en hiver et ils sont nés au Caire. Et moi, je suis née en été, au mois d'août, et je suis née à Alexandrie parce que ma mère était d'Alexandrie, donc alexandrine. Et donc, en été, du moins, je suppose, parce que nous avons quitté l'Égypte, j'avais 3 ans, donc je n'ai aucun souvenir, si ce n'est encore une fois des souvenirs rapportés ou même des souvenirs inventés. Je veux dire, la mémoire, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est vrai que d'un côté, il y a mon père, mes deux sœurs et mon frère, puis de l'autre côté, il y a ma mère, Alexandrie. Et c'était comme ça, c'était une espèce de repère comme ça, je trouve ça assez le cosmopolitisme, enfin les très peu de choses dont ma mère m'a parlé. Mais enfin en tout cas, c'est vrai que Alexandrie était comme ça, puis en plus c'est beau Alexandre, Alexandrie, cette espèce de folie. Et puis
la bibliothèque.
Et la bibliothèque, absolument. Et puis curieusement... j'ai commencé la maison d'édition dans des lieux improbables, hein, c'était chez moi, il y a eu des problèmes financiers lourds, très 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 lourds, mais enfin toujours est-il qu'à un certain moment ça allait mieux, au bout de 12 ans je pouvais plus travailler seule, donc j'ai engagé quelqu'un et j'ai pris des locaux pour accueillir la personne, je pouvais difficilement faire tenir la personne que j'engageais sur ma tête. Et il se trouve que je me suis retrouvée dans une cour absolument magnifique qui s'appelle la cour de la maison brûlée. Et la première chose que je me suis dite quand je suis arrivée dans cette cour, je me dis, mon Dieu, il va falloir faire attention aux incendies. Mais c'était également, je vais reconstituer la bibliothèque d'Alexandrie. Vous voyez que je ne recule devant rien. Un orgueil démesuré ou une bêtise démesurée, je ne sais pas.
Mais pour reconstituer une bibliothèque, il faut, ou constituer une bibliothèque, en tout cas chez soi et peut-être même dans une maison d'édition, il faut parfois ranger, il faut aussi se débarrasser de certains livres,
ce qui est un drame.
Mais vous savez le faire ?
Ça, c'est extraordinaire, c'est d'avoir créé une maison d'édition, ça m'oblige à ranger, d'autant que quand ça va pas, je me suis prise d'une crise de rangement aiguë, je jette, il faut que je jette. D'ailleurs, m'est arrivé quelque chose d'assez, il y a 3 ou 4 ans de ça, c'était un peu le traumatisme dans la maison d'édition, je travaillais avec des gens jeunes, et je leur dis, bon, écoutez maintenant. La mémoire, c'est moi. Maintenant, c'est vous qui allez décider de ce qui doit rester, de ce qui ne restera pas. Ça a traumatisé mes collaboratrices. Elles ont jeté tout ce qui ne leur servait pas, enfin, dont elles estimaient qu'elles n'avaient pas. Et c'était assez fascinant de voir, si vous voulez, comme ça, des morceaux. Mais même, c'était très concret. Hein.
Mais c'était pas des livres.
Non, 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 pas des livres. Si certains titres, certains exemplaires de non pas de la maison d'édition, mais de titres traduits. Il fallait encore garder 2 exemplaires ou 10 exemplaires, je ne sais plus. Et comme on en avait trop, donc il a fallu, ou alors des livres de poche, puisque bon, les livres sont... Et c'était de voir ça.
Vous les avez donnés, j'espère, vous ne les avez pas jetés.
Bah, on les a donnés, oui, mais enfin, il n'empêche qu'on a fait le tri. Oui, oui. Et encore, vous savez, des livres, maintenant, les gens n'en veulent plus. Hein. C'est une denrée très, 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 très... Plus, on ne se rend pas compte de... Ça n'a plus aucune valeur. Je veux dire, vous n'avez qu'à voir sur Internet ou Amazon les prix des livres. C'est un peu comme les éditions premières. Les éditions premières, c'était des gens qui voulaient, par rapport à... Même s'il y a une façon de posséder les livres, je ne possède pas du tout des livres. Je déteste posséder. Je veux dire, pour moi, c'est un...
Vous n'êtes pas bibliophile?
Non, j'aime les beaux livres, oui, mais je ne suis pas bibliophile. Je déteste les collectionneurs. Enfin, je n'aime pas la collection. Pour moi, vraiment, le...
Il y a peut-être un collectionneur, une collectionneuse de tous les titres publiés chez Viviane Amy. Alors attention, là, vous ne dites pas que vous les détestez quand même. Par exemple, est-ce que vous... Léon Werth, puisqu'on entendra un tire-ta-langue proposé par Antoine Perrault tout à l'heure, donc pour une relecture de Léon Werth, on ne peut pas dire que vous l'ayez découvert, mais le redécouvrir, c'est aussi le travail d'un éditeur, d'une éditrice.
Oui, mais enfin, c'était une boutade, hein, bien sûr, que de toute façon, l'éternel recommencement, c'est refaire, recommencer, faire les mêmes gestes.
Oui, mais on avait oublié, enfin,
Oui, c'est vrai
l'époque
que...
L'époque avait oublié Léon Werth.
L'époque avait oublié parce que je crois, enfin peut-être que je vais me prendre très au sérieux, mais je crois qu'un éditeur s'inscrit dans le temps et justement l'éditeur c'est de sortir des choses qui peut-être à l'époque où elles avaient été écrites, où elles avaient été pensées, où elles avaient été exprimées, étaient non pas en avance mais un peu trop, un peu trop, comment dirais-je, brutes de décoffrage. Et c'est vrai que Léon Werth, que j'ai découvert encore une fois par le biais des The Costolani dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai lu très tôt Le Voyage autour de mon crâne et ce qui avait été publié de Costolani, et je parlais de ce voyage autour de mon crâne à un ami journaliste, il me dit mais c'est, et donc Le Voyage autour de mon crâne c'est en 1936, Carinthy a eu une tumeur au cerveau, il se fait opérer, c'est le tout début de la neurochirurgie. Il analyse tout, l'hôpital, l'opération, etc. Et je parlais de ce livre-là à cet ami qui me dit « Mais c'est extraordinaire ce que tu me dis là, ça me fait penser à un livre d'un auteur dont je ne vois pas très bien qui c'est Léon Werth, qui s'appelle La Maison Blanche. » Moi, on me dit ça, je me précipite à la bibliothèque pour lire La Maison Blanche. Et effectivement, Léon Werth, en 1913, a écrit La Maison Blanche parce qu'il a eu un abcès temporal et il parle de l'hôpital comme si c'était un voyage, comme si c'était un lieu de pérégrination. Et j'ai trouvé que le personnage était assez extraordinaire, j'ai tiré le fil et j'ai fait ce travail sur Léon Werth et c'était extraordinaire parce que pour faire les choses, j'ai besoin d'aimer. Comme quand j'étais au lycée, j'étais bonne dans les matières quand j'aimais le professeur. Et Léon Werth, c'est quelqu'un qui m'a fascinée, qui a une espèce de rigueur morale, de capacité à s'évader, qui n'a aucun parti pris, qui est allé dans toutes les directions avec un chemin qui était le sien. J'aime bien parce que bon, j'ai rencontré son fils, on a fait un gros travail. D'ailleurs, ça me fait très plaisir parce que son journal Déposition 1940-1944 vient tout juste d'être traduit en Allemagne. Et pour moi, c'est un... Je vous parlais, lire l'histoire, relire notre histoire, relire l'histoire de la maison d'édition, que 25 ans après, en ayant fait ce travail en France, que Déposition soit publiée en Allemagne et aussi aux États-Unis, c'est pour moi extrêmement important. C'est une... Voilà, c'est une réussite pour moi. C'est un travail que j'ai bien fait.
Il y a eu les Estelle Monbrun, Fred Vargas, bien entendu, Maud Tabachnik, enfin voilà, tous les auteurs. Est-ce que vous voulez parler et vous devez parler, Viviane Ami, parce que vous n'êtes pas là pour ne pas parler des livres que vous avez édités. Est-ce que vous voulez parler? Et nous allons parler donc des livres qui, l'année dernière, donc ont marqué votre maison d'édition. Alors, il y a eu la Maison des Souvenirs et de l'Oubli, oui. Philippe David, le Nils d'Alexis Ragugno, Trois saisons d'orage, Cécile Coulon, qui a eu le
prix des libraires. Prix des libraires. Oui. C'est cette jeune femme dont je vous parlais, oui. Je vous disais qu'elle m'a envoyé son premier manuscrit, elle avait 19 ans et qui a l'âge de la maison d'édition, ce qui est, j'ai publié 5 livres d'elle, donc déjà, c'est vrai que quand je l'ai vue, je me dis merde. Pardon, 19 ans,
dites
19 ans, la maison d'édition a 19 ans, et voilà, dans le temps, j'ai l'incarnation du temps qui est passé, et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. C'est vrai que vous parlez du livre de Philippe David, il se trouve là encore que c'est une espèce de retour en arrière, et en même temps une inscription dans le temps et dans l'histoire très 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 forte. Le premier livre de Philippe David, je vous ai dit, donc au début de la maison d'édition, je me suis orientée, pour des raisons économiques et de goût, vers la littérature dite de l'Est, des pays de l'Est, parce que je m'étais rendu compte que c'était une littérature que les éditeurs ne poursuivaient pas, parce que ça ne se vendait pas, il faut bien dire les choses. Et moi, mon tropisme me portait vraiment beaucoup vers ce... Donc j'ai publié des Hongrois, et j'ai publié le premier texte de Philippe David en... Ça a été le sixième titre de la maison d'édition qui s'appelait « Le prince du feu ». Bien entendu, j'avais acheté les droits, puisqu'on achète les droits, en 1989 pour en faire la traduction. Et donc, je l'avais acheté. La Yougoslavie existait toujours. Et donc, le livre était traduit du serbo-croate. Donc, il est sorti en avril 1990 avec la mention « Traduit du serbo-croate ». Et avec les événements de Yougoslavie, la guerre qui s'en est suivie, on m'a fait des reproches en me disant « Mais comment Viviane, tu m'es traduit du serbo-croate ?» Je dis « Écoutez, je ne vais pas refaire l'histoire. La Yougoslavie, hélas, n'existe plus, ou hélas ou pas hélas, de toute façon. Mais je ne vais pas, pour faire plaisir au temps présent...
Jeter la littérature serbe.
La littérature dite yougoslave. Oui. C'est vrai que je me rends compte au fur et à mesure que j'entretiens avec la Yougoslavie une relation conflictuelle, mais vraiment d'assez grande fascination. Et les choses se sont... Et il se trouve que Philippe David est très, très, très opposé à Milosevic. Enfin, il a été mis au banc. Et il se trouve que la traductrice à l'époque... Là aussi, il y a ce problème de la traduction pour ces langues un peu particulières, où très souvent, ce ne sont pas le rapport avec la langue d'arrivée est toujours un peu difficile, parce que il faut faire un passage, et je crois toujours qu'un traducteur doit parfaitement maîtriser la langue d'arrivée et en même temps la langue de départ. Toujours est-il que je n'ai plus publié Philippe David, alors que c'était vraiment un auteur que j'aimais infiniment. Et il y a 3 ans de ça, il y a un nouveau traducteur qui avait traduit La Maison des Souvenirs et de l'Oubli, qui me l'envoie en me disant, voilà, j'ai été très, 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 très... Très, je veux dire, c'est un livre qui m'a beaucoup, au cours de cette année, qui a été une année lourde, chargée, c'est un livre qui m'a considérablement marquée, enfin touchée, dans la mesure où, encore une fois, c'est la mémoire. C'est la mémoire, pour vivre, on ne peut pas se souvenir de tout. Il est fondamental, d'une certaine façon, de se souvenir de choses qui sont constitutives et de sa propre histoire et de l'histoire des autres. Et Philippe David, dans ce livre-là, aborde la Shoah, puisqu'il avait, il est né en 1940 et il a réussi, il a été sauvé, il n'est pas parti dans les camps, même si ses parents sont partis en fumée. Mais surtout, il a écrit ce livre dans les années 2000. Il allait à un congrès aux États-Unis pour parler des enfants des rescapés de la Shoah. Et il se retrouve avec trois personnes, Serbe, Yougoslave, est-ce que je sais, je ne vais pas me prononcer, et qu'il ne connaissait pas. Et en fait, il se trouve que ces trois personnes et lui sont liés par une même histoire. Et le congrès commence et il dit, en fin de compte, nous étions déjà venus ici, mais nous étions Yougoslaves. Donc c'est un pays qui n'existe plus, avec une histoire qui risque. Donc cette imbrication, si vous voulez, de l'histoire contemporaine, parce qu'encore une fois, l'histoire des hommes est pour moi fondamental. Et certainement, au fil du temps, je m'en suis rendu compte, nous avons, mes parents ont quitté l'Égypte en 1956, parce que les Juifs n'étaient plus persona grata, les Français n'étaient plus persona grata. Ma mère était française, mon père était apatride, mes parents, toute ma famille paternelle est partie en Israël, et ma mère a dit, il n'est pas question que le père de mes enfants ne vienne pas avec moi. Ce qui fait qu'il y a eu cette espèce de séparation, de rupture de la mer Rouge. Vous voyez, oui, je peux partir, je me maîtrise beaucoup. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette espèce de coupure pour mon père, pour mes sœurs, pour mes frères. C'est vrai que mes sœurs et frères avaient 8 et 9 ans de plus que moi. Donc les problèmes, ils sont allés à l'école, chez l'école française, ils allaient chez les bonnes sœurs, mes sœurs allaient chez les bonnes sœurs, alors que... On était de confession juive, donc il y avait une sorte d'œcuménisme qui se... Mais moi, j'avais 3 ans, je ne suis pas allée à l'école. Donc, j'ai fait toutes mes classes, si j'ose dire, en France. Alors que... Donc, cette façon, c'est vrai, la façon dont l'histoire, la grande histoire, percute, le mot destin est un bien grand mot, mais enfin, des vies individuelles, des vies communes, m'a toujours... Bon, parce qu'effectivement, je veux dire, à l'heure actuelle, 8 ans, c'est dérisoire, mais c'est vrai que quand vous avez 10 ans et que vous voyez autour de vous, vos sœurs et frères qui ont 6 ans, 8 ans, 9 ans de plus que vous, et qui vivent une autre vie que la vôtre, mes parents aussi, bien entendu... Les cousins, les cousines, je veux dire, cette spécificité de la... Donc, je ne peux pas dire que je me suis inventé une histoire, mais c'est vrai que je me suis toujours...
Si, vous l'inventez dans tous les titres que vous publiez, je suis sûr, Viviane Amy.
Mais absolument.
Vous êtes sans doute aussi dans Nils d'Alexis Ragugno. Vous êtes sans doute, enfin j'en sais rien après tout, dans 3 saisons d'Orage de Cécile Coulon. Nils, on a plus de 2 ou 3 minutes là, parce qu'il faut quand même écouter les archives, hein, Viviane Amy.
Je vous avais prévenu, je parle beaucoup.
Tant mieux. Alors, en 40 secondes pour nous parler d'un roman de 300 pages.
Nils, c'est justement ce que je trouve extraordinaire, c'est que Alexis Ragugno a 40 ans. Et quand j'ai publié en 97 le livre de Ruth Kluger, Refus de témoigner, et à l'époque, Georges Semprun avait dit, voilà, il avait adoré, il trouvait le livre remarquable, et il avait dit que c'était les romanciers qui devaient servir la mémoire, reprendre l'histoire. Et Alexis m'a envoyé ce manuscrit où il a mis beaucoup de lui, mais en même temps il situe son livre tout de suite après la guerre. C'est un jeune homme qui est danois, qui a été résistant, qui fait sauter et qui est prêt à recevoir les lauriers de son travail. Et il apprend que son ami de cœur, son ami d'enfance, d'adolescence, et va être jugé par une haute cour parce qu'il a collaboré avec...
On est en 45, là.
En 45. Et ça va être un choc féroce pour lui. Et il va tout abandonner, notamment la femme qu'il aime,
qui
attend un enfant. Pour traverser l'Europe, alors il va voir l'Europe en ruine, et pour comprendre sur place, mener l'enquête, pour comprendre comment Jean-François Canonnier, son ami, qui écrivait des pièces extraordinaires, des pièces de théâtre que lui-même montait, puisque c'était des passionnés de théâtre l'un et l'autre, comment il a pu arriver à une telle ignominie. Et il va avoir 3 jours. Bon, alors là, Alexis est un dramaturge extraordinaire. Il va avoir 3 jours, il va y avoir différentes scènes où il va se déplacer. Il va aller
dans le théâtre
fermé,
mais avec les affiches
qui sont restées en l'état,
toutes les abominations
complètement décrépites. Et en particulier, il y a des murs qui ont été constitués avec des journaux reconstitués, et il lit sur les murs, c'est une scène absolument sublime, où il lit certains articles parus dans Je suis partout, dans toute la presse collaborationniste et antisémite. Et ensuite, il va rencontrer l'avocat de son ami. Il va apprendre que c'est l'avocat qui... Alors, cet avocat défendait les
corradeurs.
Et avant, il défendait les résistants. Donc, il y a... voilà, d'une certaine façon, pour moi, comme Alexis, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce que c'est que la lâcheté, en fin de compte? Qu'est-ce que c'est refuser? Se refuser à soi-même pour survivre et d'une certaine façon, oublier que nous sommes là pour vivre et non pas pour exclusivement survivre. Ce livre est extrêmement, extrêmement important, surtout de la part d'un homme d'une quarantaine d'années.
Nils Alexis Ragugno, et vous avez parlé aussi de La Maison des Souvenirs et de l'Oubli de Philippe David, publié donc chez vous, Viviane Ami. Viviane Ami, dont cette nuit est la nuit rêvée, la preuve, c'est que nous allons écouter donc un atelier de création radiophonique consacré à Tarkovski, un tir ta langue pour une relecture de Léon Werth, et Les Chats Bébels, Alexandrie en route sur les traces de la nouvelle bibliothèque. Et puis on va se retrouver en milieu de nuit, et évidemment vous parlerez, vous continuerez à parler des livres que vous avez publiés
et que vous aimez
et qui nourrissent votre biographie, votre propre imaginaire, j'en suis certain.